Le collectif des paysans et des gens et la ferme d'Émilie organise une conférence sur le biomimétisme le vendredi 31 juillet à 18h30 à la ferme d'Émilie. Alain Renaudin, président fondateur de Biomim Expo et intervenant durant cette conférence gratuite sur les lieux. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien, Alain ?
Très bien, merci beaucoup et ravi de mêler mes deux amours du biomimétisme et des lieux le 31 juillet.
Qu'est-ce que le biomimétiste, donc ?
C'est s'inspirer du vivant pour innover ou pour faire autrement ce que nous, espèces humaines, on a l'habitude de faire et qui, bien souvent, provoque, on va dire, quelques dégâts autour de nous.
Quel exemple concret vas-tu donner et mettre en avant ?
Alors, ce que je vais proposer le 31 juillet, c'est justement un panorama. Une sorte de bibliothèque d'exemples très divers et variés. Je vais probablement en donner une bonne vingtaine ou une bonne trentaine, parce que cette idée de biomimétisme est une idée ancienne qui parfois se limite un peu dans les exemples à deux, trois icônes, et je vais montrer qu'il y a toute une nouvelle génération d'exemples. Les deux, trois icônes, que tout le monde les ait en tête, ou les a déjà en tête, c'est... par exemple, le fameux Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, qui a un nez très allongé pour une raison assez simple, c'est que pendant 30 ans, il avait une tête, j'ai envie de dire, de train ordinaire, sauf qu'il y avait des à-coups aux entrées et sorties de tunnels, parce qu'on est sur un tracé ferroviaire au Japon entre la mer et la montagne, il y a des changements de taux d'humidité. Et donc, en fait, ça fait comme des bouchons quand vous rentrez dans le tunnel, et ensuite, c'est un peu désagréable, il y a un à-coup, et puis ensuite, il faut réaccélérer, etc. Et entre les années 60 et 90, ce train avait ce problème. Bon. Et un jour, il y a un ingénieur qui est arrivé, Nakatsu, dans les années 90, et il était aussi ornithologue, donc spécialiste des oiseaux. Et en observant un martin-pêcheur, il s'est dit, mais finalement, le martin-pêcheur, qui passe son temps à plonger en piqué hein, pour aller attraper des petits poissons, il a résolu notre problème parce qu'il passe d'une pression à l'autre, l'air à l'eau, en ce qui concerne l'oiseau, sans déflagration, quasiment. Parce que le bestiau, il a besoin de garder de la vitesse, et il a besoin de ne pas faire de bruit pour pêcher des petits poissons, parce que s'il arrivait en faisant une bombe, évidemment, ça ne marcherait pas. Et donc, petit à petit, et c'est ça le biomimétisme, c'est j'observe le vivant, j'essaie de comprendre pourquoi il est comme ça, et j'en tire un certain nombre d'enseignements pour voir si ça ne pourrait pas résoudre mes problèmes à moi du quotidien, alors un quotidien industriel ou un quotidien agricole, enfin, peu importe. Et donc, aujourd'hui, ce Shinkansen, il a un nez très allongé, un peu comme le bec du martin-pêcheur. Et résultat des courses, il n'y a plus de turbulence, il n'y a plus d'à-coups aux entrées et sorties de tunnels. Il consomme moins d'énergie, il va plus vite. Juste pour donner un autre exemple assez iconique et que tous les auditeurs ont probablement chez eux, voire sur eux au moment où ils nous écoutent, c'est le fameux Velcro, cette bande auto-agrippante que tout le monde connaît. Eh bien, le Velcro, figure-toi qu'il a été inventé par un chercheur suisse qui s'appelait Georges de Mestral, dans les années 40, en revenant d'une balade en forêt avec son chien, ça l'a amusé, il a vu des fleurs de bardane qui s'étaient accrochées au poil du chien. Il y a pas mal de plantes qui ont cette technique pour se répandre d'une certaine manière dans leur environnement, elles s'agrippent au poil des animaux qui passent. Et donc ça a amusé notre ami Georges de Mestral. Et puis petit à petit, il a fait des essais, des tests, etc. Et on est arrivé à reproduire, donc biomimétisme, on essayait de reproduire ce qu'on a observé. Et lui, il l'a reproduit à travers une bande à deux côtés. Un côté qui ressemblait un peu au poil de son chien, il a trouvé du velours pour faire ça. Et de l'autre côté, les espèces de crochets de la fleur de bardane, velours crochet, velcro. C'est ça l'explication. Alors, je vais raconter... parce que parfois, ces exemples même connus, on n'en connaît pas l'histoire. Donc, je vais parler de ça, mais surtout, je vais parler de la façon dont, aujourd'hui, par exemple, on peut utiliser des phéromones. C'est quoi une phéromone ? C'est un message olfactif, donc odorant, que la femelle insecte émet pour attirer le mâle. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, tu as une entreprise, une start-up, qui s'appelle M2i, qui s'est inspirée de cette... méthode de communication des insectes entre eux pour protéger des cultures ou des forêts ou votre jardin, arrêter nécessairement de tout tuer, de tout détruire, mais essayer de maîtriser la reproduction des insectes. Et bien typiquement, Ils ont développé une formule biomimétique de cette phéromone sexuelle femelle. Ils l'encapsulent dans des espèces de billes qu'ils diffusent au-dessus, par exemple, des cultures. Et donc, pendant quelques jours, quand les mâles arrivent, alors ils sentent de la phéromone à tous les étages, mais ce sont des leurres, on appelle ça de la confusion sexuelle. Il y a peut-être une vraie odeur dans le tas, sauf que il faudrait vraiment qu'ils soient très chanceux pour trouver la femelle. Donc en fait, ils trouvent pas la femelle, donc ils se reproduisent pas, donc il n'y a pas de larves qui sont les principaux ravageurs. Donc ça ne tue pas, mais d'une certaine manière, c'est une forme de contrôle des naissances. Et ça marche très bien. Ça marche très bien à la place des produits phytosanitaires, pétro-sourcés, polluants, etc. Tant et si bien que cette entreprise, qui était une start-up il y a moins de 10 ans, elle permet d'économiser l'équivalent de ce qu'un pays comme la Pologne diffuse en phytosanitaire. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une réponse bio-inspirée du vivant, pour apporter des solutions nouvelles, typiquement au monde de l'agriculture. Il y a d'autres entreprises, Agriodor par exemple, qui travaillent à peu près dans les mêmes domaines, mais eux sur la relation plante-insecte, pour voir comment stimuler, biostimuler la croissance des plantes, eh bien en attirant des pollinisateurs vers les plantes, pour les aider à grandir et à se reproduire. Parce que là aussi, c'est assez étonnant, mais c'est la plante qui attire son pollinisateur, hein, c'est pas le bourdon ou le papillon qui se promène comme ça gentiment à la découverte des belles rouges ou jaunes, ou voilà. Et donc là, c'est la plante qui émet, toujours pareil, un message olfactif. Là, ça s'appelle kéromone. Et l'idée, c'est de voir comment aider finalement, là pour le coup, c'est plutôt une agence de relations matrimoniales, comment aider la relation entre pollinisateurs et plantes. Et il y en a encore d'autres, et je termine là-dessus pour rester dans le domaine agricole. On est quand même à la ferme des Midi vendredi, 31, qui travaille sur les champignons mycorhiziens. C'est quoi la mycorhize? C'est cette espèce d'étage qui fait le lien entre les plantes, les réseaux racinaires des plantes, pardon, et le fameux mycélium. Le mycélium, c'est le réseau racinaire des champignons qui transporte de l'eau, des nutriments, etc. Et la nature, elle fait des échanges pour prospérer. Elle a besoin de faire des échanges pour prospérer. Un peu comme nous, d'ailleurs. Eh bien, ces échanges entre le mycélium et le réseau racinaire de la plante, ils passent par cette espèce de place de marché qui s'appelle les champignons mycorhiziens. Mais dans des sols qui sont trop travaillés, trop traités, la mycorhize, elle souffre et parfois elle disparaît. Eh bien, finalement, ça revient à couper les ponts. Et quand les ponts sont coupés, eh bien, il faut rajouter des intrants pour stimuler les plantes. Vous avez des boîtes qui travaille sur la reconstruction de ces ponts mycorhiziens, ce qui permet de mettre moins d'intrants chimiques et de favoriser, on va dire, une croissance naturelle des plantes en rétablissant ce lien entre le mycélium, qui apporte de l'eau et des nutriments, et la plante, qui en échange donne du glucose au mycélium, le glucose étant le résultat de la photosynthèse. Tout ça pour dire que dans le vivant, on se porte bien quand on est différent et quand on est connecté. Ce qui fait la résilience d'un écosystème, d'un biotope, c'est quand vous avez plein de trucs différents, mais qui sont pas des trucs différents sous cloche, mais qui sont des trucs différents qui sont liés et qui sont connectés.
Le biomimétisme, pour faire simple, c'est l'imitation par les hommes des animaux.
Alors des animaux, des plantes, des écosystèmes, ça peut être à tous les étages. Mais effectivement, c'est... Alors, imiter, on ne sera jamais aussi bon que le vivant. Mais disons, comprendre le vivant par la curiosité et l'émerveillement pour essayer d'en tirer des leçons et voir comment on peut parfois les mimer, parfois les appliquer. Mais c'est effectivement ça, la philosophie. La philosophie, c'est le vivant est là depuis plus longtemps que nous. Ce que je rappellerai aussi le 31 chez Émilie, c'est que... on a tous tendance à l'oublier, mais qu'on est une espèce jeune. Nous, en tant qu'Homo sapiens, nous n'avons que 300 000 ans. On est une espèce très jeune. Et quand je vous parlais tout à l'heure du martin pêcheur, faut se rendre compte que quand vous regardez un oiseau à l'île-dieu, c'est une espèce qui a 150 millions d'années. Et donc forcément, l'oiseau que vous regardez sur cette magnifique côte sauvage ou ailleurs, c'est de la super technologie. parce que c'est que de l'essai-erreur et de l'évolution et de l'adaptation continue. Donc cet oiseau que vous observez, c'est un avion qui a 150 millions d'années de R&D.
Le biomimétisme, ça fonctionne dans différents domaines, tu nous l'as dit, l'industrie ou l'agriculture.
Ça fonctionne dans à peu près tous les domaines. J'ai donné quelques exemples en agriculture. Tu peux aussi, par exemple, t'inspirer des structures osseuses de nos os à nous, ou des os des oiseaux, pour alléger des matériaux, pour toute l'industrie qui a besoin de faire se déplacer un objet d'un point A à un point B, et si cet objet est plus léger, ben, il va consommer moins de carburant, etc. Nos os, ce sont des structures alvéolaires, où il y a plus d'air que de matière, et ils ont été bien pensés, parce que on n'a pas besoin d'avoir des os pleins. Imagine, ça serait coûteux à fabriquer, ça serait coûteux à transporter. Et pourtant, c'est quand même assez résistant. Il y a plein de gens dans l'industrie qui travaillent, je vais te dire, il y a même des paléontologues, c'est-à-dire qui travaillent sur des os de dinosaures. Il y a du paléo-biomimétisme, figure-toi, pour voir comment ces grosses bêtes étaient capables de se déplacer avec des structures mécaniques à rotation. Ils étudient leurs rotules, etc., pour voir comment ces os, ces structures osseuses, bien que allégées en matière, sont quand même des matériaux très résistants. Et typiquement, aujourd'hui, consommer moins de matériaux, bah, c'est émettre moins de CO2, c'est consommer moins de ressources de matières premières. Et donc, oui, il y a beaucoup d'industries qui s'intéressent à ça. Donc l'industrie, l'agriculture, même l'informatique et la gestion de données s'inspirent du mode de fonctionnement de nos propres cerveaux, parce que notre cerveau est capable de faire beaucoup de calculs, hein, qu'on le veuille ou non, en consommant très peu d'énergie. Et donc voir comment on est capable d'avoir des processus de calcul très économes en énergie, ça aussi, ça intéresse beaucoup de monde. Il y en a encore d'autres qui s'y intéressent dans le domaine de l'hygiène beauté, de la cosmétique, pour voir comment protéger un épiderme cutané, par exemple, l'épiderme des agressions, sécheresse, soleil, etc., de notre environnement, parce qu'il y a des plantes qui sont capables de résister à un fort rayonnement sans pour autant s'assécher. Aujourd'hui, elles souffrent avec la canicule, mais il y a des processus dans les plantes, par exemple, qui sont extrêmement intéressants pour ça. Et puis, pour terminer, il y en a aussi qui s'intéressent à ça, dans l'énergie, dans le mode d'organisation des communautés humaines, en disant, mais finalement, comment le vivant s'organise, quels sont les grands principes des modes de collaboration. Ben, généralement, on est dans des bénéfices mutuels, on est dans la coopération, on est dans des approches symbiotiques. Le vivant a l'habitude de mettre en place des coopérations, j'ai envie de dire, à double bénéfice. Typiquement, je ne sais pas si tu connais les histoires d'acacia et de fourmis, mais l'acacia héberge sur ses branches une fourmi qui se nourrit, qui raffole de son nectar. Et en échange, la fourmi, tiens-toi bien, protège l'acacia des grands pachydermes, des éléphants ou des girafes qui viendraient trop brouter ses feuilles, tout simplement en allant les picoter et les envahir dans leurs narines ou dans leurs trompes. Et donc, il y a une sorte de coopération mutuellement bénéfique qui se met en place. Et le vivant, c'est vraiment ça à tous les étages. On a l'habitude de dire que, contrairement peut-être à ce qu'on a appris dans nos règles économiques à nous, dans le vivant, la coopération est beaucoup plus productive que la compétition. Et typiquement, à un endroit comme la ferme d'Émilie à Lille-Dieu, quand on est dans la permaculture, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans l'idée que la diversité et la coopération et la symbiose finalement entre les espèces va protéger le champ, tout simplement parce que tout ça va gentiment, entre guillemets, s'équilibrer.
Alain, en t'écoutant parler, j'ai l'impression qu'on n'a rien inventé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça te fait sourire déjà?
Oui, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on peut se dire. C'est d'une certaine manière, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de solutions à nos problèmes d'aujourd'hui qui sont autour de nous si on veut bien regarder.
Quelles solutions alors? Par rapport à quel problème?
Bah, typiquement, comment réduire la pression sur les écosystèmes en émettant moins de CO2, en consommant moins d'énergie, en consommant moins de matière, en consommant moins d'intrants et d'engrais pétro-sourcés, en étant capable finalement réduire notre pression sur l'environnement et en pensant symbiose et bénéfices mutuels. D'une certaine manière, si le vivant était le boss, si le vivant était le chef d'entreprise ou le président de notre communauté, il fixerait un certain nombre de règles de départ, une sorte de cahier des charges où il dirait, ben voilà, moi je veux bien qu'on développe de la prospérité, de la croissance, mais on va produire zéro pollution. Donc dans le vivant, tout est circulaire, tout est recyclé, tout est décomposé et réutilisé. Il n'y a pas de déchets qui ne soient pas réutilisés dans le vivant. Donc le vivant, en tant que chef de l'institution, on dirait ben, on produit pas de déchets. On va travailler avec nos partenaires en bénéfice mutuel. C'est-à-dire qu'on va pas être là pour mettre la pression et épuiser nos partenaires. On va voir comment travailler du co-bénéfice. On va travailler en circuit court. C'est-à-dire qu'on va s'approvisionner localement, le plus localement possible. Il y a certes des oiseaux migrateurs, hein, il y a du vivant qui fait des grandes distances, mais dans la plupart des cas, le modèle, c'est le circuit court. On n'a jamais vu un castor faire 2000 bornes pour aller chercher son bois. Donc, on se source localement, et en fait, ça change tout. Quand tu mets ça dans le cahier des charges, ben, quand tu te sources localement, quand tu travailles localement, tu prends soin de l'écosystème de proximité dans lequel tu vis.
Tu nous as dit qu'il y a des solutions. Pourquoi certaines ne sont pas mises en place? Alors que, à première vue, en t'écoutant parler, c'est simple.
Ben parce qu'il y a deux, trois obstacles. D'abord, il y a un obstacle, j'ai envie de dire, historique. C'est que, allez, on va dire depuis 200 ans de révolution industrielle, jusqu'à maintenant, on a pu gentiment épuiser les ressources et taper dans la planète sans que ça pose trop de problèmes. Donc, finalement, tant que ça marche, on continue. Hein, pourquoi changer ?
En gros, c'est au pied du mur qu'on veut mettre le mur.
Forcément. Il faut quand même se rendre compte que les sujets omniprésents aujourd'hui qui tournent autour, évidemment, du dérèglement climatique, des fortes chaleurs, des inondations, etc., honnêtement...
De l'énergie ?
De l'énergie, de l'eau. Honnêtement, ils n'occupaient pas tant que ça l'espace, il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Donc, tout ça est quand même... ça paraît bizarre à dire, mais c'est à la fois très ancien parce que très connu. On connaît les courbes d'une certaine manière, on savait où elles nous emportaient, mais c'est en même temps très récent dans la mesure où, bah, moi par exemple, j'ai jamais appris ça à l'école quand j'étais étudiant. Hein. Enfin, c'était moi quand, même quand j'étais jeune actif, voilà, ça remonte à quelques temps, mais ah, c'est pas, voilà, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, ce sujet, et c'est ça qui en partie peut me rendre un peu optimiste, même si je suis très inquiet, mais en tout cas, ce sujet, il est présent comme jamais. Donc, premièrement, tant que ça marchait, pourquoi changer ? Deuxièmement, il y a ce que je viens de dire, cette idée de la nouveauté. Ben, ça, cette nouveauté, ben, il faut l'intégrer. Il faut comprendre comment on va faire avec, il faut comprendre comment ça va impacter notre modèle, notre mode de fonctionnement, notre mode de production, etc. Ensuite, il y a parfois une barrière culturelle, c'est-à-dire que quand tu prends les directions générales des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, hein, ou même les grandes institutions publiques, il n'y a pas beaucoup de biologistes, d'entomologistes, d'écologues, etc. C'est plutôt... des financiers, des ingénieurs, des gens du droit, enfin, etc. Donc le monde des sciences est assez peu représenté dans ce qui nous gouverne aujourd'hui. D'accord ? Donc les réflexes de pensée qui consistent à se dire bah, il va falloir trouver des modèles qui soient davantage en osmose, en symbiose avec le vivant, il va falloir s'inspirer du vivant, bah, quand tu connais pas le vivant, quand tu l'as pas appris, quand tu n'es pas scientifique ou capable de parler avec des scientifiques, bah c'est pas évident à appréhender. Donc parfois il y a une barrière culturelle. Ça veut pas dire que tous les chefs d'entreprise ou tous les hauts fonctionnaires doivent devenir des biologistes. Ça veut dire que tous ces gens-là doivent davantage travailler en équipe avec ce qu'on appelle de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire avec cette idée que le problème que j'ai en face de moi sur la table, mon cursus à moi, ma formation à moi, mes réflexes de pensée à moi vont peut-être pas être la seule source de réflexion pour essayer de répondre au problème. Ça vaut peut-être le coup qu'on regarde le truc à plusieurs pour voir comment essayer de d'être innovant pour y répondre. Et puis le dernier obstacle, c'est que parfois, bah, il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit au rendez-vous, parce que si tu vas voir un industriel et que tu lui dis, écoutez, c'est formidable, on peut s'inspirer d'une structure osseuse pour alléger, je sais pas, la plateforme de votre train, de votre voiture, de votre avion, de je ne sais quoi, sauf que t'as pas la machine pour le fabriquer, ou que ça nécessite un investissement d'une somme considérable pour le faire, bah, forcément, t'as du mal à embarquer les gens. Donc il faut aussi qu'il y ait un modèle économique. Quand je parlais des substituts aux phytosanitaires en agriculture, bah, il faut que ces substituts, ils soient pas deux ou trois fois plus chers que le produit conventionnel qui est utilisé. Il faut que tout ça soit compétitif. Donc voilà, tout ça est en train d'évoluer.
Il faudrait changer de schéma de pensée, quoi.
Ça commence par ça. Ça commence par ça et par une espèce de
prise de conscience, peut-être, non ?
Prise de conscience et de volonté de descendre de notre piédestal. Je ne sais pas si tu connais le film Le cercle des poètes disparus, mais dans le film, à un moment donné, le professeur invite les élèves à monter sur la table pour changer leur point de vue sur la classe. Ben, nous, c'est plutôt l'inverse. Il faut plutôt qu'on descende de notre piédestal et qu'on arrête de penser qu'on est une espèce dominante, qu'on est une espèce qui n'est pas dépendante du reste qui nous entoure, et qu'on sait déjà tout faire.
On ne racontera pas à la fin du film, par contre.
On ne racontera pas à la fin du film. Absolument. Mais en tout cas, oui, ça commence par ça, du réémerveillement, de la curiosité pour le monde qui nous entoure, et un changement de regard, en disant, ben, finalement, ce formidable monde qui nous entoure, plein de génie et de capacité, bah d'abord il faut faire équipe avec lui, parce qu'on n'a pas d'avenir sans faire équipe avec lui. Un grand astrophysicien, Hubert Reeves, qui nous a quitté l'année dernière, que tout le monde a peut-être en tête, avec une barbe grisonnante et une voix un peu rocailleuse, disait déjà depuis longtemps, on est en train de mener une guerre contre la nature, si on la gagne, on est foutu. Bah, la suite, c'est qu'il faut faire la paix avec la nature, c'est-à-dire qu'à force de la provoquer, ça va commencer à nous coûter cher, parce qu'elle réagit, parce qu'elle va nous manquer. Et la fin et la suite du film ou du match, eh bien, c'est comment coopérer avec ce vivant, parce qu'on se portera mieux si lui-même se porte mieux.
Comment tu vois le futur proche ? T'es pas très optimiste quand même.
Je suis pas très optimiste parce que il y a des solutions, mais on n'en parle pas assez. Moi, j'ai créé un événement qui s'appelle Biomime Expo, qui rassemble des chercheurs, des scientifiques, des écoles, des industriels, des startups, etc., beaucoup de jeunes aussi, sur cette idée de prendre modèle sur le vivant. Et moi, j'ai une obsession pour être très démonstratif et parler de solutions. C'est ce que je ferai le 31 là, chez Émilie, montrer plein d'exemples. En fait, pour se surprendre nous-mêmes sur le fait que, bah, on le sait peut-être pas assez, mais demain a déjà démarré à plein d'endroits. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de gens qui font de la restauration d'écosystèmes naturels et ça marche. Il y a plein de gens qui trouvent des substituts à des choses qui sont aujourd'hui polluantes et ça marche, etc. Et donc, je suis à la fois confiant et inquiet. Je suis confiant quand je regarde ça. Je suis confiant quand je regarde la puissance de la recherche, et notamment en France. C'est pas uniquement des gens qui tirent des signaux d'alarme pour dire il va faire plus chaud. Hein. C'est des gens qui ont plein de solutions potentielles dans leur labo et qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en relation avec des acteurs économiques. Là où je suis inquiet, c'est sur les délais. C'est sur les délais, c'est-à-dire que on va être en capacité à trouver des alternatives, probablement à changer ici ou là des modèles économiques, sauf que tout ça va prendre un peu de temps, et l'inertie climatique est quelque chose d'incroyablement puissant, c'est-à-dire que l'excès de carbone qu'on a dans l'air aujourd'hui, on va se le coltiner un paquet de dizaines d'années. Et il va falloir être radical. C'est un peu comme la baignoire qui déborde, si tu veux. Quand tu arrives dans une salle de bain avec une baignoire qui déborde, qu'est-ce que tu fais ? Tu te rues sur le robinet pour fermer le robinet. Mais quand tu te rues sur le robinet, tu le fermes pas à moitié. Si tu le fermes à moitié, elle va continuer de déborder, la baignoire. Et donc, typiquement, l'excès de carbone, pour parler que de ça, qu'on continue à émettre dans l'atmosphère, À un moment donné, il va pas juste falloir faire moins 30 ou moins 40%, il va falloir arrêter. Il faut couper le robinet de la baignoire si on veut pas qu'elle déborde. Et donc ça, bah, ça veut pas dire que ça va être des privations, etc. Moi, je suis convaincu qu'on peut vivre mieux en s'inscrivant dans cette transition qui a été très mal vendue depuis 30 ans. On a toujours parlé d'efforts, de morale, d'éthique, etc. Pas du tout. Tout ça peut être très positif. Sauf que le climat, la planète, la nature, elle est déjà lancée sur de la dégradation et sur des conséquences qui vont pas se retourner en un an ou en 5 ans. Voilà.
T'en parles avec passion du biomimétisme. Tu es dans le domaine depuis quand ?
Alors je suis, j'ai plongé deux fois. J'ai plongé dans le développement durable en 2002. 2002, c'est le sommet de Johannesburg, c'est le fameux sommet où Chirac dit « la maison brûle, on regarde ailleurs », qui est toujours d'actualité. Mais c'est aussi à ce moment-là, c'est pas que cette phrase, c'est aussi à ce moment-là une nouvelle réglementation qui impose aux entreprises cotées notamment de rendre compte de leurs impacts. C'est la première fois qu'on demande à des boîtes de compter leurs impacts et d'en rendre compte, là, au début des années 2000. C'est l'arrivée aussi des monsieur et madame développement durable dans les entreprises. Ça aussi, c'est nouveau. Bref, en 2000, à ce moment-là, je fais encore des études d'opinion publique et études politiques et études de communication à l'IFOP, où j'ai passé une quinzaine d'années. Et donc, je me rends compte, je sens, parce que je suis aussi prospectiviste, qu'il se passe quelque chose. Il y a un mouvement qui est en train de se lancer sur cette espèce de prise de conscience, de destin commun, etc. Et donc, je me mets à étudier beaucoup ça et à réfléchir beaucoup à ça et essayer de travailler avec des entreprises pour les faire bouger en ce sens-là.
Est-ce que tu penses que ce sera une question centrale des présidentielles en 2027 ou pas du tout ?
Je suis pas convaincu. Et pourtant, pour moi, le sujet de la biodiversité ou de la nature est en train de devenir ce que j'appelle moi un enjeu clé de voûte, dans la mesure où c'est ça qui tient le reste, parce que la décarbonation, émettre moins de CO2, c'est vital, c'est ultra nécessaire, mais ça sera pas suffisant. C'est-à-dire que faire rouler un tracteur électrique dans un champ pour épandre des produits polluants, ça changera qu'une partie du problème. Ce que j'adorerais, c'est qu'à l'occasion du débat sur les présidentielles 2027, on ait au moins un candidat, je sais pas lequel, qui soit capable de nous dire que on est désormais en communauté de destin avec la nature qui nous entoure, et on a tout intérêt et tout à faire et tout à entreprendre pour travailler à la restauration des écosystèmes, à la préservation de cette planète qui nous abrite, si on veut nous-mêmes vivre bien et vivre mieux, parce que sinon on va en payer le prix fort au fur et à mesure des années. Et donc j'aimerais bien que ça devienne un sujet, mais sous un angle positif, c'est-à-dire que l'environnement, l'écologie a toujours été présenté sous un angle dogmatique, politique, négatif, bien souvent. Il faut se rendre compte que, au contraire, c'est un sujet universel qui parle de notre communauté en tant qu'espèce humaine et qui parle de notre avenir. Et c'est plutôt, y a plutôt que du positif à en tirer. Voilà, donc j'aimerais bien que ça devienne un sujet des présidentielles sous cette idée que la nature est un actif, est un capital vital et stratégique.
Voilà. Alain Renaudin, le public pourra poser des questions durant cette conférence sur l'île-Dieu le vendredi 31 juillet.
Oui, on a bien entendu prévu ça.
On te retrouve, on l'a dit à l'instant, sur l'île-Dieu le vendredi 31 juillet à 18h30 à la ferme d'Emily. Pour parler de ce biomimétisme à la Renaudin. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.